Propos sur le bonheur, l'émission qui met le bonheur au centre de ses priorités. Ici Nicolas, en compagnie de Gilles Morin.
Bonjour.
Et de Marie Folcon.
Bonjour.
Nous sommes à Montréal, dans les studios de Radio Centre-Ville. Et notre thème cette semaine sera « S'arrêter et oublier l'inessentiel ». On reconnaît l'élévation d'une personne à sa souveraine capacité d'oublier l'inessentiel. Les gens aujourd'hui, je trouve, sont accaparés par des choses qui ne servent à rien, des choses qui prennent leur esprit et qui finalement les font dévier de leur voie. Et puis finalement, après 20 ans, après 40 ans, ils se retrouvent dans une situation qui n'est pas du tout la situation qu'ils s'étaient donné à être. C'est très malheureux. Alors aujourd'hui, on va réfléchir sur le sujet de s'arrêter et de penser à soi.
Oui, effectivement, moi je pense que dans cette phrase-là, s'arrêter, c'est vraiment... par rapport justement à un arrêt du mental, afin justement qu'on puisse accéder à s'apercevoir de qu'est-ce qu'on a réellement besoin. Et justement, quand il y a un arrêt du mental, comme on parlait souvent avec l'instant présent, c'est là que les besoins finalement s'amenuisent. Et là, on s'aperçoit que finalement, tout ce qu'on a autour de nous, la plupart des choses qu'on a, on n'en a pas besoin, réellement besoin, pour justement pour être heureux, etc. Et puis pour vivre vraiment épanoui. C'est sûr que c'est relatif à beaucoup de gens, je pense aussi, parce que c'est selon justement le niveau de conscience qu'ils ont atteint que là, ils vont avoir tel ou tel besoin, tel ou tel, justement, de choses autour d'eux pour se développer, pour s'épanouir. Et c'est selon vraiment leur niveau de conscience qu'ils ont atteint à ce moment-là.
Et c'est pour ça que je disais, c'est le niveau d'élévation.
Exact.
Ça nous dit vraiment le niveau d'élévation, oui, d'une personne.
Parce que moi, je me souviens, quand j'ai eu beaucoup d'illumination, même si je pensais avoir eu juste comme l'essentiel autour de moi, finalement, à la suite des retraites ou autres, j'arrivais chez moi et puis j'étais, oh wow, j'ai vraiment trop de choses chez moi. C'est comme, j'en ai pas besoin, ça, j'ai pas besoin, ça. Et j'avais vraiment un détachement encore plus fort qui me fait que je réalisais que j'avais pas besoin de ça du tout, quoi, pour être heureuse, etc. Donc c'est vraiment selon le niveau d'élévation, comme tu disais, que là on peut vraiment accéder à un réel bonheur. Finalement, on s'aperçoit, ah ben oui, on est heureux même sans ça, même sans ça.
C'est drôle, encore aujourd'hui, cette semaine, t'est arrivé quelque chose de spécial. Pas cette semaine, mais même aujourd'hui, parce que je m'étais préparé certaines notes pour faire l'émission, ouais. Et soudainement, j'arrive au travail et j'ai oublié toutes mes notes, et donc je suis tout nu aujourd'hui pour faire l'émission. Et je me sens comme un peu insécure. L'oubli m'a fait oublier ce que j'avais à faire, ce que j'avais à dire, et là, je suis comme un peu... insécure, parce que je dis, est-ce que je vais être capable d'exprimer mon propos et d'affirmer certaines choses que je veux affirmer aujourd'hui sur le thème qu'on a aujourd'hui. Donc, déjà, en oubliant tout, est-ce que j'ai gardé l'essentiel?
Tu vois, on avait une ancienne animatrice, Malika, qui, elle, c'était le contraire. Si elle était venue une fois avec des notes, elle n'était pas capable de faire l'émission, oui. Elle était comme... était bloquée parce qu'elle lisait ses notes. Puis
effectivement, c'est ça.
Et elle a, j'ai dit, enlève tes notes, là, jette-les à côté. Là, elle s'est mise à parler.
Exact, se laisser aller complètement.
Tu vois comment que les personnalités peuvent être différentes.
Ouais. C'est une sorte de liberté. Moi, c'est pareil, parce que dès que le mental embarque, là, tu vas avoir peur d'oublier ceci ou cela. Donc là, c'est sûr que dès que d'un seul coup, t'accroches autre, oh, t'es perdu. Puis là, tu vois, comme tu te sens un peu, mais finalement, c'est bien, tu sais. Cela, tu peux te laisser aller et puis te donner justement cet exemple-là pour indiquer. C'est un bon exemple.
En fin de compte, j'ai essayé de comprendre pourquoi j'avais oublié mes notes, ces choses-là, pour faire l'émission qui, pour moi, est assez importante. Mais là, je me suis dit, j'ai trop couru pendant la semaine. Donc, je m'en allais en vacances et tout. Je devais tout finir, les dossiers que j'avais à préparer et tout. Donc, j'étais dans la recherche de terminer tout ce que j'avais. Donc, j'étais dans l'inessentiel. Je préparais, je forçais, j'accélérais le rythme au travers.
Fallait que tu t'arrêtes.
Et au lieu de faire ce qui était essentiel, d'amener mes notes pour faire les discours qu'on faisait aujourd'hui, ben, j'ai oublié cette partie-là. Parce que j'étais trop affairé à ce que j'avais à faire pendant la semaine. Mm-hmm. J'avais trop de tâches à faire pour boucler ma semaine comme il faut. Et au lieu de m'arrêter puis penser à ce que j'avais à faire de plus essentiel pour moi, ben, je l'ai oublié.
Mm-hmm. C'est très facile dans notre société aujourd'hui, surtout la société occidentale, de se perdre dans des fausses obligations. On nous crée des besoins. Moi, je ne suis pas de ceux qui embarquent beaucoup. Je n'ai pas de télévision. Quand une annonce passe, je ferme la télévision, je ferme mon ordinateur. Maintenant, ils ont réussi à trouver le moyen de mettre des annonces, par exemple, sur YouTube, etc. Mm-hmm. Mais je ferme tout simplement YouTube dans ce temps-là. Je me dis, je ne vais pas là pour me faire créer des besoins. Et puis, si on ne suit pas ces besoins-là, on s'ostracise. On est comme pas comme tout le monde. Mais moi, on dirait que les choses qui ne sont pas essentielles me sont données en général. Et tu vois, j'avais besoin vraiment d'avoir un iPad parce que je fais des sites Internet, mais j'en avais pas acheté, moi. Mais à Noël, j'ai eu un iPad de mon père. Okay. Et il me sert beaucoup parce que je peux faire des comparaisons maintenant que c'est pas la même chose sur un iPad que sur un... Mais j'en avais besoin, mais c'était pas essentiel à ma vie. Mais tu vois, on me l'a donné. Et tout au long de ma vie, j'ai toujours reçu
l'inessentiel.
C'est ça. J'ai jamais travaillé beaucoup pour obtenir l'inessentiel. Si je regardais, par exemple, quand j'étais jeune, ma sœur travaillait pour aller se payer des voyages de ski, des choses de même. Ouf, je faisais de la bande dessinée chez moi, puis ça me rendait tellement heureux. J'avais pas besoin de rien d'autre. Là. Mm-hmm. Et elle passait beaucoup de temps à travailler au salaire minimum pour le dépenser. Mais pour moi, c'était pas essentiel. L'essentiel, c'était d'être chez moi, de faire de la bande dessinée. Et aujourd'hui...
Je pense que c'est quand il y a justement un lâcher-prise que là, finalement, les choses viennent. Donc, comme tu avais déjà le lâcher-prise là-dessus, bah, l'inessentiel pouvait venir à toi, peu importe, c'est toi qui choisissais par la suite, si oui ou non, tu allais t'en servir. Après, il faut voir aussi qu'est-ce que tu peux développer avec l'inessentiel que tu as reçu, si après ça devient essentiel. En fait, ça, c'est aussi autre chose.
C'est ça mm-hmm. le problème. Un des gros problèmes qu'il faut regarder, c'est que qu'est-ce qui était inessentiel pour toi, puis qu'est-ce qui est essentiel et comment définir cette particularité-là, c'est quand même, il faut vraiment être concentré sur toi-même, être centré sur toi-même pour bien reconnaître ce qui est essentiel et ce qui n'est pas essentiel.
Effectivement, c'est ça qu'on disait.
Moi, je trouve qu'une bonne manière, c'est de se dire, est-ce que c'est un besoin ou est-ce que c'est un désir? Bon, j'ai besoin de cette femme dans ma vie ou je la désire? Je désire cette femme. Moi, je n'ai pas de besoin présentement de personne, mais j'ai un grand plaisir d'avoir des femmes dans ma vie. Donc, pour moi, c'est un plaisir, c'est un désir. Et moi, je suis mes désirs, contrairement à beaucoup de gens dans notre société qui ont les a appris à ne pas suivre leurs désirs parce que c'est contre l'Église, etc. Moi, je suis mes désirs parce qu'ils m'amènent vers les bonnes personnes. J'ai pas peur de mes désirs. Et c'est ça. Est-ce que le désir, est-ce que c'est un plaisir aussi? Si...
Mais quand le point que tu amènes est important, c'est lorsqu'on commence à parler de besoins. Et dans le monde matérialiste dans lequel on vit en ce moment, c'est avec le marketing, avec toutes les influences de la télévision, toutes les influences de la consommation, c'est d'inventer un besoin.
Ah, c'est ça.
Et après ça, on essaie de le créer, de répondre à ce besoin-là. Donc, on est dans une course effrénée à plus finir pour remplir nos besoins.
En plus de ça, que tu crois que c'est un besoin, mais c'est la société qui t'a vraiment inculqué que c'était un besoin, en fait. Parce qu'après, tu sais, c'est comme, pourquoi que lui, ce serait un besoin pour lui, puis pas pour elle? T'sais? Tu les mets dans la même situation, lui, c'est, ah oui, il est accroché à ça, c'est un besoin, parce que lui, on lui a appris que ça, là, puis il le voit tout le temps, toute la journée, télévision ou autre. Pour lui, c'est un grand besoin, alors qu'en fait, pour l'autre, bah non.
Ben, ça rentre en ligne de compte dans le style de vie, dans quel genre d'art de vie que tu veux vivre. Est-ce que tu veux vivre dans la productivité, dans la compétition? Toujours la compétition entre les gens qui rentrent en ligne de compte. Donc, il y a toujours un but à atteindre, il y a toujours un objectif à atteindre. Et si tu n'atteins pas ton objectif, ben tu remplis pas ta tâche que tu t'es mis, que la société ou... j'aime pas ça dire la société, parce que la société, encore là, c'est toujours une dualité. C'est pas la société qui te crée ce besoin-là, c'est toi-même qui te crée le besoin. T'sais, si tu vois une émission à la télévision qui passe puis qui dit il faut que tu achètes une télévision 42 pouces quand tu viens de t'acheter une 36 pouces, puis là, tu vas travailler puis tu fais de l'overtime pour t'acheter ta 42 pouces parce que tu as vu à la télévision
ben
que
ouais,
c'est ça qu'il fallait
toi,
faire pour
c'est sûr,
avoir
c'est
une
c'est,
belle
c'est,
vue.
C'est, sauf que...
Si tu la vois, puis après ça, tu t'en vas dans le métro,
tu
as les grosses
affiches,
puis là,
tu la vois à nouveau. C'est de l'hypnose, en fait.
La
société t'hypnotise carrément, c'est ça.
C'est sûr qu'en bout de ligne, c'est toi qui décides.
Mais encore, c'est comme de l'hypnose. Tu décides pas, là, d'après moi, c'est ça. Là.
Ouais,
à force de le voir, c'est ancré tout le temps dans le mental jusqu'à ce que tu le fasses. Là.
Oui, mais les gens qui travaillent en arrière de ça, encore eux autres aussi, ils ont des principes de productivité. Donc, c'est un cercle vicieux parce que la personne qui crée les images, qui crée les influences que tu vis, ben, eux aussi sont sur le principe de la productivité.
C'est pour ça que je disais la société, c'est tout le système qui est comme ça.
Si tu produis pas, ben le système économique tombe parce que tu peux pas payer des intérêts sur des intérêts sans puis arrêter de produire. Donc à ce moment-là, le système s'auto-régularise.
Ouais.
Mais on va faire une pause musicale avec une chanson de Plastic Bertrand qui s'appelle Stop ou Encore. Et puis on revient après la pause avec ce thème, s'arrêter et oublier l'inessentiel.
À la fin ou au début. Stop, stop, ou encore. Je passe le bac ou je deviens cloche. Je vais au fac ou au cinoche. Je prends la porte ou je me supporte. Je fume du hash ou des gouloirs. Je fais des gags ou des ardoises. Je deviens dentiste ou bien artiste. Je quitte mes vieux ou je reste chez eux. Je reste comme ça ou je persévère. Stop, stop, ou encore.
Encore.
Stop, stop, ou encore.
Encore.
Stop. J'ai 20 ans, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête ou je continue? J'ai 20 ans, où j'en suis? À la fin ou au début?
Encore.
J'ai eu dans le dos, j'ai fait la manche pour les finances, j'ai fait la plonge pour la rallonge. Mes vieux me virent, l'armée m'appelle, c'est encore pire que la vaisselle. Je joue les folles en uniforme, j'ai bâti folle en me réforme. Je reste comme ça ou je persévère. Stop,
stop,
ou encore.
Encore.
Stop,
stop,
ou encore. J'ai 30 ans où j'en suis, à la fin ou au début. Stop,
stop,
ou encore.
Encore.
Je marche à voile ou à vapeur, je me paye une toile ou bien une sœur. Je fais semblant ou bien j'y crois, je fais des enfants ou bien des croix. Je fais des ronds ou bien des bulles, je fais faux bon ou bien masse nulle. Je fais des galas ou des galères, je reste comme ça ou je persévère. Stop,
stop,
ou encore.
Encore.
Stop,
stop,
ou encore.
Encore.
Stop. Demain j'aurai 150 ans, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête ou je continue? Demain j'aurai 150 ans.
Propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est s'arrêter et oublier l'inessentiel. Moi, c'est pas pour me vanter, là, mais je crois que je suis un champion de l'inessentiel. J'ai déjà raconté à quelques reprises qu'est-ce que j'ai fait quand je suis arrivé à Montréal. Moi, à l'âge de 24 ans, j'ai terminé l'université. On me poussait vers travailler dans un bureau. Mais quand je suis arrivé à Montréal, j'avais vraiment pas le goût de travailler. Puis pour moi, il y a quelque chose qui me disait que il fallait que je me concentre sur moi. Puis j'ai oublié l'inessentiel à ce moment-là totalement en me demandant l'aide sociale. J'ai eu une levée de bouclier, tout le monde n'était pas d'accord, tout le monde, sauf mes amis qui étaient des BDistes ou des artistes qui étaient eux-mêmes sur l'aide sociale, donc ils m'ont donné des trucs. Et pendant 10 ans, je n'ai presque rien eu. J'allais chercher la nourriture dans des places de pauvres, j'ai trouvé mes meubles dans la rue, tu sais, on dirait que tout m'était donné. Je trouvais ma peinture dans des écoquartiers, je trouvais des morceaux de bois, ça, je m'en servais pour faire des toiles, etc. Donc, moi, j'ai réussi à faire un peu comme le Bouddha. En fait, je me suis rendu compte que tel le Bouddha qui s'est assis sous son arbre et qui a dit « Moi, je bouge pas d'ici tant que je me réveille pas. » J'ai fait la même chose, d'une manière un peu plus moderne. Et je me suis trouvé un appartement et je me suis assis et j'ai dit « Là, je ne bouge pas tant que je vois pas pourquoi je travaillerai. » Ça m'a pris 10 ans. Et là, finalement, c'était dans un livre d'André Moreau que j'ai compris que je serais mieux de travailler parce que c'était une phrase qui a résonné dans ma tête. C'était que un assisté social devient un assisté mental. Là, j'ai compris pourquoi je devais travailler. Pas pour me procurer des objets, pas pour avoir de l'argent, mais pour être un homme indépendant et libre. Et puis, je pense que c'est ça. Quand on oublie l'inessentiel, on est libre.
C'est ça, mais c'est pas de... Tu sais, moi, j'étais dans des écoles de finance et tout, donc j'étais plus apporté vers l'argent et ces choses du genre. Par contre, c'est pas de diaboliser, comme j'ai déjà dit. L'idée, c'est pas de diaboliser, c'est juste de... Tu sais, les grosses voitures, les voyages, les choses du genre, c'est pas qu'une question qu'on n'en veut pas. C'est juste que je ferai pas l'effort pour que ça l'arrive, que je chavire ma vie pour avoir la grosse voiture, la grosse... toutes les activités mercantiles qu'on peut penser. C'est juste que ma vie est en fonction de l'essentiel. Mais même si j'ai de l'inessentialité dans ma vie, je vais l'accepter quand même. Mais je ne mettrai pas de l'effort pour faire en sorte que j'ai la plus grosse maison, la plus grosse auto, le gros compte en banque et vivre avec un gros bateau à toutes les femmes. Je vais faire en sorte que ce que j'ai besoin, okay, soit du côté matérialiste, mais je ne ferai pas d'effort pour arriver à ce but-là. Mon but, c'est vraiment d'être aligné sur ma personne. Donc, non, pas sur ma personne, sur mon être.
Sur le micro aussi.
Oui, sur le micro aussi. Donc c'est pas l'idée, c'est pas de mettre de l'effort dans tout ça pour aller acquérir des biens matériels. Si les biens matériels arrivent, eh bien, ça fera partie de mon entéliché. Donc, ça fera partie de ce que j'ai à vivre. Mais il faut pas que j'oriente ma vie sur ce que j'ai à acquérir, mais ce que j'ai à être. Je pense que c'est l'essentiel ici.
Mais tout ce temps où moi, je ne travaillais pas, je regardais les gens autour de moi, puis j'avais peine à comprendre comment ils étaient aussi naïfs de tout de suite plonger dans le bain. T'sais. Je travaille maintenant et j'ai un grand plaisir à le faire. Mais il m'a semblé que j'avais besoin d'un moment de réflexion. Et puis c'est ça, je pense que le thème d'aujourd'hui, c'est arrêter et oublier l'essentiel. Ça prend un moment dans notre vie où on arrête. Puis on réfléchit à nous-mêmes. Passer des journées à regarder le mur blanc, et c'est un supplice atroce pour la majorité, mais pour moi, c'est un plaisir. Je voyais mon futur, je voyais des projets que je voulais faire, j'avais beaucoup d'imagination. Et c'est dommage que les gens ne s'arrêtent pas parce que les gens vont super vite et avancent. Ils prennent une retraite quand ils sont déjà usés, ils sont finis, et c'est trop tard.
Ben, c'est ça, ils ne profitent pas de leur vie au moment où ça se passe finalement. Ils vont projeter tout le temps plus tard, et puis ils sont brûlés finalement à arriver au bout du compte. Hein. C'est sûr.
Puis moi, il y a un mot qui m'est revenu à l'esprit lorsque j'ai su le message, pas le message, mais le thème, c'est « wow ». Let's go, ben, je vais le faire fort, « wow, minute ». On ralentit, on se ralentit le pompon, là. Puis j'ai juste à regarder au niveau de l'actualité avec la politique qui se passe en ce moment. Ils sont en train de nous organiser notre vie. Il n'y a personne qui sont capables de réfléchir là-dessus, que ce soit le parti gauche, le parti de droite, n'importe quel parti nommé-les, ils sont en train de nous organiser. Puis là, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui dise « Wow, minute, on ne vous a pas demandé d'organiser notre vie. » Mais par contre, ils vont vous dire « Oui, mais vous votez. Vous avez décidé de mettre votre pouvoir dans nos mains. On a le droit de faire ce qu'on veut. » Et là, c'est là le moment de s'arrêter. C'est là le moment des gens de réfléchir à quel genre de vie qu'ils peuvent vivre, dans quel système qu'ils veulent vivre. Est-ce qu'ils veulent mettre des gens au pouvoir pour nous diriger, nous organiser? Et là, en mettant ce pouvoir-là dans les mains d'autres personnes, on oublie l'innocentiel. On met dans. Eux autres vont s'organiser avec l'inessentiel, puis l'essentiel qui est notre être, qui est notre vie à nous, on va complètement l'oublier, on va la mettre dans les mains d'eux. Et c'est eux qui vont décider si on doit travailler 37 heures et demie par année. C'est eux qui vont décider s'ils doivent rallonger la retraite de 65 ans à 67 ans. C'est eux qui vont décider s'ils vont nous couper le chômage. C'est eux qui vont décider du salaire minimum.
Alors, pompon, Gilles, là,
non,
comme tu dis...
mais je vous dis, si les gens ne s'arrêtent pas à penser à eux-mêmes et se laissent organiser, ils vont toujours recommencer le cycle et les gens qui sont au pouvoir, ils vont toujours nous détruire. Bah,
arrêtez de voter. Arrive. Moi, bah, je ne vote pas. Je dis non merci parce que je crois que c'est inessentiel. Je n'ai pas besoin d'un gouvernement. Je ne crois pas que c'est nécessaire. Sur la Terre, il y a eu des époques où ça n'existait pas. Puis les sociétés qu'on dit primitives fonctionnaient très bien. Encore aujourd'hui, dans des coins comme en Amérique latine, en Afrique, il y a des sociétés qui n'ont pas de gouvernement. Et à mon avis, ils sont beaucoup plus heureux que nous.
Mais regardez au niveau fédéral avec le NPD. Puis c'est le gouvernement conservateur qui est au pouvoir. Est-ce que le Québec se porte plus mal parce qu'il n'y a aucun représentant du gouvernement au Québec? Je ne veux pas faire de la politique. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. C'est trop inessentiel, effectivement. Mais allons-y à l'essentiel. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut? On veut juste pouvoir... manger, être en amour, vivre heureux, avoir du plaisir. Et si on a du plaisir dans la vie, si on est heureux, ben on ira chercher nos besoins, on ira remplir certains besoins juste pour nous donner une petite gâterie. Mais laissons l'essentiel, laissons notre être décider, vivons selon l'essentiel et non l'inessentiel. Qui est partout dans notre société.
Quand on regarde, par exemple, les grands maîtres spirituels, il y en a que tu peux reconnaître que ce sont des brigands. Tu sais, il y a des gens comme Osho, des gens qui étaient super riches, alors que tu as des gens comme Nisargadatta Maharaj, Ramana Maharshi ou Gandhi qui vivaient simplement. Pour moi, c'est évident. C'est souvent ceux qui n'ont pas d'argent qui sont les plus vrais. Parce qu'ils n'attirent personne, parce qu'ils sont pas au goût du jour. Mais pourtant, après 2000 ans, c'est d'eux qu'on parle. Et c'est très malheureux qu'on ne soit pas à l'écoute de ces gens-là. Pour moi, c'est ça la sagesse. C'est d'être capable de vivre avec presque rien et d'être heureux, puis d'avoir des vraies valeurs. Si bientôt je fais beaucoup d'argent, j'aurais au moins appris à vivre sans cet argent. Alors que quelqu'un qui a toujours vécu avec l'argent... moi, c'était une des raisons pourquoi je voulais vivre... Je voulais connaître la pauvreté quand je suis arrivé à Montréal, parce que je viens d'une famille moyenne. On n'a jamais manqué de rien, dans un petit quartier de Lévis, proche de Québec. C'était une belle vie. Mais je voulais connaître c'est quoi la pauvreté, voir ces gens-là. Et c'est pas toujours facile. Dans des banques alimentaires, tu vois qu'il y a des gens qui ont des maladies mentales. Moi, c'était un choix. J'en ai sorti. Quand j'étais tanné, quand j'ai voulu, mais la majorité d'entre eux n'ont pas de possibilité d'en sortir. Mais dans certains d'entre eux, j'ai vu des gens qui étaient très heureux parce que moi, j'ai passé des journées complètes dans les parcs à ce moment-là. J'avais rien à faire. Donc, je passais mes journées dans les parcs. Puis, il y avait des gens qui buvaient toute la journée et qui prenaient des drogues. Mais ces gens-là, étrangement, étaient relax. Il y avait une guitare souvent. Ils jouaient de la musique. Ils cruisaient des femmes, tu sais. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de beau, tu sais, alors que c'est souvent ceux qu'on va cracher sur eux. Mais pas on, je veux dire, les gens riches vont cracher sur ces gens. Mais souvent, on pourrait apprendre de ces gens qui ont presque rien, mais qui trouvent quand même le moyen d'être heureux dans l'inessentiel.
Puis on va remarquer souvent, lorsqu'on vit dans l'inessentiel, c'est le temps qui nous manque. On n'a plus de temps pour penser, on n'a plus de temps pour réfléchir. Quand est-ce qu'on prend le temps, quand c'est la pause au travail, de sortir puis aller nourrir les oiseaux, prendre un bain de soleil, relaxer, écouter de la musique?
Baiser la secrétaire.
Baiser la secrétaire, mais ça, c'est plus difficile. Ou aller se baigner si à côté de où vous travaillez, il y a un bain.
Ça,
ou
c'est le rythme.
Le rythme nous fait perdre le temps. Donc, on n'a plus le temps. Le temps qui est apparti pour nous, c'est une heure de dîner et c'est tout. Après, tu as des pauses, mais c'est seulement ce temps-là qui t'est donné pour que tu t'occupes de l'essentiel. Donc, c'est toi. Donc, la seule... si tu n'as pas de temps, si tu t'occupes de l'inessentiel, tu n'auras pas de temps.
Bien, on finit la première partie de l'émission. Pour les auditeurs de Radio Centre-Ville, vous pourrez nous écouter sur notre site internet, propossurlebonheur.com ou sur Radio H2O. Pour les auditeurs de Radio H2O ou ceux qui nous écoutent en podcast, bien, après la pause musicale, cette chanson de Renaud qui s'appelle « Arrêtez la clope ». Et on revient vers ce thème qui s'appelle « S'arrêter et oublier l'inessentiel ».
C'est pas si fastoche d'arrêter cette putain de cam en vente libre. Il faut une sacrée volonté, une détermination terrible. Chaque fois que j'arrête, c'est pas sérieux. Les 12 fumeurs que je vais taxer, mof 12 cibiches et même du feu, ont vraiment aucune volonté. 60 cigarettes dans la tronche, chaque jour et ce depuis 40 ans. À côté de la couleur de mes bronches, un béret basque paraîtrait blanc. Et je vous dis pas la thune non plus. J'ai laissé à ces enfoirés, ces dealers au coin de la rue, avec leurs carottes pour me faire marcher. Arrêtez la clope avant qu'elle n'arrête ma vie. Trop belle avec toi et mes potes, ah, trop jolie. Je vois les mômes de 12-13 ans qui fument déjà comme des pompiers. Je les imagine dans 25 ans à galérer pour arrêter. Je trouve héroïque et admirable ceux qui ont jamais eu besoin de cette merde, qui ont jeté cette fumée du diable, qui chlinguent comme une vieille gerbe. Et ta criminelle trafiquant qui s'enrichit sur mon cancer et qui me supplie dans le même temps de filer ma pièce à Schwarzenberg. Super trust américain qui rendent la planète toxico, puis qui t'explique que c'est pas bien, qu'il faut pas fumer dans les bistrots. Arrêtez la clope avant qu'elle n'arrête ma vie. Trop belle avec toi et mes potes, ah, trop jolie. Pas mourir, et surtout pas d'un truc si con. Va te laisser seul, et puis me dire qu'après 30 ans d'un deuil profond, tu pourrais regarder un autre mec, peut-être même un fumeur de cigare. Et pourquoi pas te maquiller avec, l'éternité deviendrait cauchemar. À chacun sa motivation, moi c'est juste par jalousie que je veux me libérer de ce poison, qui est un putain de plaisir aussi. Je veux bien me retrouver sur l'autre rive, du moment que tu meurs avec moi. J'ai une idée pour que ça arrive, tu veux pas te remettre au tabac. Arrêtez la clope avant qu'elle me prive de toi. Je pourrais presque me passer de mes potes, mais pas de toi. Je pourrais presque me passer de mes clopes, mais pas de toi. Mais pas de toi.
De retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est s'arrêter et oublier l'inessentiel. Moi, j'avais beaucoup compris ça aussi il y a quelques années, peut-être une dizaine d'années, où je suis tombé en amour avec les livres de Carlos Castaneda qui parlait beaucoup de la voix du guerrier. Et Don Juan, qui était son professeur, parlait justement que le vrai guerrier est quelqu'un qui a tué son passé, qui vit dans le ici-maintenant, qui n'a pas de futur. Il n'a pas passé parce que c'est trop dangereux d'avoir, premièrement, des gens, de la famille, parce que dans cette époque-là, les sorciers, c'était on s'attaquait à la famille, etc. Donc, le vrai sorcier se coupait de tout pour être dans le ici-maintenant et d'avoir des vraies visions. Et ça m'avait fait beaucoup réfléchir. Et c'est comme ça que moi, j'ai commencé à vivre comme un vrai guerrier, c'est-à-dire dans le ici-maintenant. C'est important pour moi, le futur, bien sûr, mais je ne suis pas obsédé par le futur. Je ne suis pas obsédé par obtenir des objets, obtenir le succès, par exemple. Tu sais, je fais l'émission de radio par plaisir. Si bientôt on a une reconnaissance, je vais être très heureux. Ça rejoint un peu ce que tu disais, Gilles, tantôt. Si je n'ai pas à forcer, J'ai pas à passer des journées complètes à essayer d'appeler des producteurs à me casser la tête. Si ça fonctionne par soi-même, je vais être très heureux. Mais si je dois forcer, là, moi, j'ai trop bien compris que c'est la facilité qui est importante dans ma vie. Quand c'est facile, on dirait que les choses se font par elles-mêmes. Et s'il me manque quelque chose, on me le donne.
Ça, c'est dans le lâcher-prise, en fait. Dès qu'on lâche prise, souvent, les gens ont eu cette expérience-là. Ils veulent quelque chose. Puis c'est au moment où, comme ils ne l'ont pas, ils laissent tomber. Puis là, la chose arrive à ce moment-là. T'sais. C'est sûr qu'il y a toujours... il faut qu'il y ait un lâcher-prise pour que l'énergie passe.
Moi, je préfère l'expression « laisser être ». Parce que dans le lâcher-prise, pour moi, il y a comme un abandon qui n'est pas toujours nécessairement positif. Le lâcher-prise, tu peux tomber. Alors que quand tu te laisses être... On joue sur les mots, là, mais moi je crois que chaque mot a un pouvoir très fort. Donc, moi, je ne me laisse pas. Je laisse. Parce que le laisser.
Non, c'est pas laisser tomber, c'est lâcher prise. Pour moi, c'est différent. Laisser tomber, c'est négatif. Alors que lâcher prise, c'est positif parce que justement, il y a une ouverture qui se fait.
Ça rejoint la philosophie indienne qui dit let go. Laisser aller le mental. Mais moi je vais plutôt dans l'intégration à un niveau supérieur du mental. Donc, quand le laisser-être, à mon avis, c'est juste c'est un peu comme le fil à plomb qui va toujours pointer vers le centre de la Terre. Il va toujours te laisser. T'as pas besoin de tout lâcher. Tu juste te laisses être. Ben, c'est subtil.
Parce que moi, le lâcher-prise, c'est vraiment par rapport au mental. Parce que je suis vraiment dans l'instant présent, ici, maintenant. Et le lâcher-prise, pour moi, se fait justement où il n'y a pas de résistance à ce qui est. Et là, je lâche-prise parce que je suis dans l'instant. Je suis dans le « est », OK, dans l'action. C'est pour ça que je parle de lâcher-prise de cette manière.
Moi, ça me fait penser... bien souvent, on a l'expression de faire le vide. Moi, je fais pas le vide, je fais le plein. Donc, je peux pas rien lâcher, je prends tout. Donc, si je suis dans l'instant présent, s'il y a plein d'informations qui rentrent, je vais pas essayer de les éviter. Je vais les prendre et je vais les consommer. Que ce soit le bien, le mal, peu importe. Je vais l'atomiser, l'information, je vais l'atomiser et je vais en faire un tout. Et ce tout-là, je vais le remplir pour en faire pas nécessairement quelque chose. Donc, c'est lorsqu'on est dans l'inessentiel... Ben, même si c'est inessentiel, il faut en tenir compte. Donc, il ne faut pas faire l'oubli dans le sens de faire le vide, mais faire le plein. Dans le sens que même si tu oublies plein de choses, les choses que tu as oubliées font partie de ton quotidien, fait partie de ta réalité. J'ai l'impression que si on se met à oublier des choses pour évacuer, on va évacuer longtemps. Ça me fait penser, je vais faire une mauvaise blague, là, mais je ne la ferai pas, mais vous avez compris. Non, mais en fin de compte, je fais le tout, donc je prends tout. Donc, même si quelque chose est inessentiel, à un moment donné, ça va me servir. Et le sage, ben, il va s'en servir quand ça sera le temps.
Puis concrètement, si certains auditeurs se posent des questions à propos de comment le faire, moi, je pense que la première chose à faire, c'est de regarder autour de toi, justement, de prendre une pause et regarder tous les projets qui ne sont pas les tiens. Souvent, on nous impose des dettes ou des choses qui ne sont pas à nous, des projets, on fait jouer notre émotionnel, il faut donner de l'argent à telle personne, faire telle chose pour telle personne. Mais souvent, j'ai remarqué que tous ces gens qui font du bénévolat, qui se donnent à des organismes sans but lucratif, s'oublient eux-mêmes. Ils oublient leur vrai projet. J'ai vu des gens arriver à 60 ans et ne pas avoir encore eu le temps de réaliser leur projet qui leur tenait vraiment à cœur parce qu'ils étaient dans tellement d'autres projets. Moi, je refuse de m'embarquer dans des projets qui ne sont pas les miens. Si on parle au niveau des affaires, j'ai des clients qui viennent vers moi. Je veux toujours les passer un peu dans un radar pour voir si, bon, est-ce que j'ai un intérêt d'être avec ces gens? Oui, ils vont me donner de l'argent, mais est-ce que je vais avoir du plaisir? Est-ce que ça va me faire grandir en tant que personne? C'est toutes des questions que moi, je me pose. Donc, ça m'arrive de plus en plus, parce que là, j'ai des bons clients, ça m'arrive de plus en plus de refuser des projets qui je sais, ne vont pas m'apporter quelque chose. Et surtout aussi dans le niveau personnel, je m'implique dans un projet, le mouvement jovialiste, et puis tous les autres projets autour sont tous liés à ça pour moi. Et pour le reste, je me mêle de mes affaires. Je pense que si on apprenait à se mêler de nos affaires, je pense que ça irait très bien sur la Terre.
Puis je ne sais pas si c'est un lien que je peux faire, mais j'ai peut-être fait grincher des gens. Mais je parle toujours dans ce sens-là, au niveau de faire ce que tu as à faire, c'est une question de liberté. Et on a compris quand la révolution de la femme, pour se libérer, elle voulait être égale à l'homme, elle s'est lancée sur le marché du travail. Mais sur le marché, elle s'est lancée sur le marché du travail pour, en arrière, en background, pensant que c'était pour avoir une certaine liberté. Puis que l'essentiel, c'était le travail. C'était d'avoir des actifs, avoir de l'argent dans leur poche. Et on se rend compte qu'il y a comme un backslash, que ce n'est pas nécessairement ça, ce que les femmes voulaient. S'ils ne voulaient pas aller travailler 37 heures et devenir des hommes, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se rencontrer, ils vont s'apercevoir que cette idée-là d'aller travailler, c'était une idée d'homme. Puis c'est une idée d'homme qui a été acceptée par les femmes. Et lorsqu'on parle de l'inessentiel, ben ils sont rentrés dans le monde inessentiel de l'homme pour devenir... avoir une certaine liberté. Et la liberté, quand tu t'occupes juste de l'inessentiel, c'est pas ça la liberté. Quand on parle de liberté d'être, c'est pas l'inessentiel qui va te la donner, c'est toi-même.
Et c'est drôle, au Québec, je pense qu'on a des hommes intelligents parce qu'ils ont pris la place de la femme. Ici, au Québec, on a le phénomène de l'homme rose, c'est-à-dire l'homme au foyer, qui, là, tout son temps, OK, t'as à faire le ménage. Moi, à l'époque, justement, où je ne travaillais pas, ma compagne, elle travaillait, donc ça me faisait plaisir. Je faisais à manger, je faisais le lavage, mais j'avais encore beaucoup de temps pour moi, pour faire de la peinture, de la bande dessinée, faire du sport.
Puis là, maintenant, la société est tellement organisée que deux salaires qui rentrent dans la maison, c'est que là, la femme ne peut plus sortir du marché du travail. Les hommes ne peuvent plus sortir du marché du travail parce qu'ils ont acquiescé à l'inessentiel. Ils sont obligés, pour garder leur maison, d'avoir deux revenus, puis ils sont obligés d'acheter deux voitures. Et je ne vais pas rentrer encore dans un débat économique, mais toute cette pensée-là, cet art de vivre-là, qui est matérialiste, a créé l'inessentiel dans nos vies. Donc, tant qu'on n'aura pas de. On ne sera pas organisé pour aller vers un monde plus immatérialiste, plus en relation avec l'être, bon, on va toujours s'enfoncer.
Mais c'est une stratégie perverse, moi, je trouve, de l'appareil manipulateur plutocratique, là, tous ces gens riches, et qui ont créé justement les cartes de crédit. Moi, j'ai une amie, elle a 20 000 $ de dette. Elle ne peut pas s'arrêter. Elle a un job de fou. Elle est obligée de faire 40 heures et plus. Et elle ne peut pas s'arrêter. Moi, je peux m'arrêter, je peux prendre des pauses parce que j'ai tellement pas de dépenses. J'ai pas d'auto, j'ai pas de maison, j'ai aucune dette. Donc, je travaille le minimum et le reste du temps, ben, je peux faire l'amour, je peux avoir des projets personnels, je peux être dans ce qui, pour moi, est essentiel à mon développement intrinsèque.
Puis là, le constat de ça, c'est qu'il faut s'arrêter, mais comment s'arrêter pour ne pas détruire tout ce qui est à côté, tout ce qu'on a bâti?
Ben, je dirais, tout est dans l'art de ne rien rompre.
C'est ça.
Donc, le faire intelligemment, à mon avis, c'est de ne pas rompre. Par exemple, j'ai une autre amie qui travaille aussi. Elle aussi est exploitée chez Vidéotron. Elle est programmeuse et puis là, elle n'en peut plus. Mais je la vois aller. Elle va lâcher sa job puis elle va trouver une job exactement pareil. La même chose va se reproduire. Moi, je lui avais suggéré, j'ai dit, demande peut-être, par exemple, de travailler à temps partiel puis en parallèle, trouve des contrats. Les programmeurs peuvent être payés 150 $ de l'heure. Moi, je connais un programmeur qui est payé 150 $ de l'heure. Mais tu vois, elle n'est pas assez créative. Elle ne le fera pas.
C'est un processus et puis c'est vraiment une pattern que tu as. Si elle a vécu comme ça pendant longtemps, va reproduire parce que ça crée des besoins. Là, puis toute la société, on vient là-dessus, mais tout est créé comme ça. Tout est fait afin que tu deviennes comme ça pour les cartes de crédit, tes besoins. Et ça n'en finit plus. C'est toujours le plus-plus des fameux des égos. C'est tout le temps plus-plus-plus avec tout le...
D'ailleurs, elle s'est achetée une maison à crédit avec son ex-mari. Même si elle ne reste plus dans cette maison-là, elle doit donner 1 000 $ par mois. Plus son appart qu'elle doit payer. Donc, tu vois, moi, j'ai toujours fait attention à ça. Quand je suis arrivé à Montréal, je n'avais aucune dette. J'étais chanceux. Mes parents m'ont payé mes études parce que sinon, je ne crois pas que je serais allé à l'université. Moi, je n'ai jamais cru au travail. J'avais ma passion qui était l'art. Et si mes parents ne me l'avaient pas payé, je ne serais pas allé. Mais c'est un cadeau qu'on m'a fait. Je l'ai accepté, ce cadeau. Et puis, quand je suis arrivé à Montréal, j'ai été quand même assez intelligent pour dire non, merci, là, ça va faire. J'ai donné, OK, on nous oblige à aller à l'école de l'âge à 4 ans. Là. On peut-tu arrêter à un moment donné puis prendre du temps?
Mais par contre, je trouve aussi qu'il y a une possibilité que même si tu es dans ta situation qu'on parlait tout à l'heure, là, la maison, etc., tu peux avoir un certain détachement par rapport à ça quand même. Donc, tu continues de vivre, mais c'est ta façon d'être qui est complètement différente. Tu es détaché de ça. Donc, si tu perdais tout demain, n'y aurait aucun problème.
Mais c'est ça qui est pervers, c'est parce que dans le système qu'on a, c'est que les gens travaillent 5 jours par semaine, les gens normaux, 5 jours par semaine, et la liberté, le besoin, l'extase ou le plaisir qu'ils ont, c'est la fin de semaine. Donc, il y a des gens qui vont remplir leur fin de semaine avec un horaire, le même agenda, mais avec des loisirs. Donc, ils ont le beau jeu, ils disent, voyez-vous, la fin de semaine, je fais des loisirs.
Ouais, mais ils peuvent avoir le plaisir à chaque instant dans leur travail, c'est ça l'instant présent. À chaque seconde, tu peux être dans l'instant, dans le plaisir, dans la joie, même si tu fais tel ou tel job, n'importe quoi finalement. Tu auras toujours au niveau de la joie, dans l'être, quand tu fais l'instant.
On pourrait revenir là-dessus.
C'est possible, hein, mais moi je le souhaite, mais quand on regarde les gens, je crois que souvent c'est plutôt un besoin, ils travaillent par besoin.
Oui, la plupart des temps des gens, mais c'est tout à fait possible quand même de le faire par rapport au détachement. Mais il faut atteindre un certain niveau de conscience, c'est sûr. Là. Mais une fois que tu pratiques et tu le fais, tu vas t'apercevoir qu'à chaque seconde que tu fais, c'est comme une extase, là. Puis là, t'en es détaché du résultat. Puis c'est à chaque seconde.
Mais c'est parce que cette extase-là est créée par le manque de liberté pendant ta semaine. Donc, le petit. En tout cas,
on va y revenir après la pause. on va aller écouter une chanson de Pierrick Liliou qui s'appelle S'arrêter là. Puis on revient après la pause avec S'arrêter et oublier l'inessentiel.
Je vivrai de quoi? Si tu t'arrêtais là, advienne que pourra. Est-ce qu'on sera les
retour à Propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est s'arrêter et oublier l'inessentiel. J'en ai parlé un petit peu tantôt. Moi, je crois qu'une des premières choses, c'est de congédier les importuns. Il y a tellement dans notre société des vampires, autant énergétiques, financiers. Si je pense en affaires, j'ai toujours un client sur 30 là, qui ne va pas me payer. Tu sais, le salaud là, qui va juste me sucer mon énergie sans rien me donner. On a tous des amis ou des gens qui viennent puis qui nous prennent notre énergie puis ouf, ils sont partis. Et je pense qu'il faut développer le jugement. Ça, c'est important. C'est ce que les gens n'ont pas beaucoup dans la société parce qu'on dit toujours « Ah, il ne faut pas juger. » Ben moi, je veux juger. Je veux juger quand quelqu'un arrive. Par exemple, c'est dans la sexualité, moi, je ne me protège pas. Donc, je juge. Une femme vient vers moi, je dois rapidement juger si elle a des maladies ou en a pas. Je ne peux pas nécessairement lui demander. Je trouve que c'est un peu premier niveau. Donc, je dois sentir les choses. Je dois apprendre à jauger, à tout de suite décider, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Je saute ou je ne saute pas? Dans tous les sens du mot.
OK.
Et puis ça, moi, je pense que je suis bon là-dedans. J'ai tout de suite, quand je suis arrivé à Montréal, à l'âge de 24 ans, j'ai congédié tous les fausses pensées qui m'amenaient à vouloir travailler en disant, mais non, c'est pas nécessaire. Je peux très bien m'en sortir. C'est pas évident, je crois. Avec le temps, c'est devenu très difficile. À un certain point, j'ai compris que c'était le temps, mais ça m'a pris cette phrase dont j'ai parlé tantôt. L'assisté social devient un assisté mental. Mais tu vois, moi, c'était au niveau philosophique que j'avais besoin de me dire pourquoi je travaille, pourquoi je travaillerais. Mais si je comprends pourquoi, à un niveau supérieur, j'ai pas de problème. Je le fais. Remarque que je préférais ne pas travailler, mais la société est basée encore là sur des choses inessentielles et puis on se prend au jeu. Et ça nous prend ci, ça nous prend nos petites sorties, ça nous prend du beau linge, mais on peut s'en passer.
Effectivement. Mais tu peux avoir tout ça avec le détachement aussi, comme je parlais tout à l'heure.
Oui, ben c'est ça. Là, comme tu disais, c'est important que quand on parle de l'inessentiel, tu apportes un autre point essentiel, c'est les gens qui t'entourent. Quand tu sais que les gens qui t'entourent, c'est toi qui les as attirés, donc c'est comme tantôt quand je disais, on fait le vide, moi je fais pas le vide, mais je fais le plein. S'il y a des gens qui sont inessentiels en l'entour de toi, ben à ce moment-là, si tu es attiré, il faut que tu comprennes un peu c'est pourquoi tu as attiré ce genre de personnes-là dans ton entourage. Donc, c'est quand même une centralité, il faut que tu sentes un peu dans quelle situation tu étais quand ces gens-là sont arrivés près de toi. Mais le rejet, oui. Mais faut que tu apprennes quelque chose de cette situation-là.
Je dirais plus une genre de passe de jujitsu, tu sais, ou l'aïkido. Tu sais, l'aïkido, c'est des spécialistes, ils vont pas forcer, ils prennent l'énergie de la personne qui s'en vient vers eux.
Et
moi, c'est ça que j'ai développé. C'est tu viens vers moi, tu es un vampire, je vais pas me bouger, moi, je vais juste retourner ton énergie contre toi-même. Et souvent, ces gens qui m'ont volé, par exemple, je leur dis, bon, il y a une loi dans l'univers qui fait que tu vas te le faire voler, cet argent. Et tu vois, en général, mettons, à Noël, j'ai un client qui m'a volé 500$. Mais j'ai eu un cadeau de Noël de 500$.
Ouais. Il y a toujours une raison, un retour et tout, etc.
Si j'étais greedy, je pourrais dire, il me manque ça. Mais en réalité, j'ai vu que l'univers, ou mon être, me l'a ramené. Donc, j'ai vu que c'était balancé. J'ai compris que l'autre, ben, il se l'est fait voler lui-même.
Ouais.
Et moi, je trouve une autre manière, c'est de cesser d'adhérer émotionnellement. C'est très difficile pour les femmes. Les femmes, en général, sont très émotionnelles. Mais moi, je suis tellement intellectuel que j'adhère pas beaucoup. Moi, je suis plutôt sentimental. Je regarde toujours mon sentiment parce que le sentiment est dans le ici-maintenant. L'émotion est souvent dans le futur ou dans le passé. Encore là, il faut faire une distinction entre les deux. Pour moi, l'émotion, c'est quelque chose, c'est une illusion. C'est-à-dire, elle va me laisser, mais là, tout va bien maintenant.
C'est une projection, effectivement.
Exact. Le sentiment est toujours, l'harmonie est là.
Oui.
Et si on apprenait à être plutôt dans les sentiments, je crois que ça irait beaucoup mieux. Moi, je suis quelqu'un qui est dans le sentiment. Mm-hmm. Je n'adhère pas émotionnellement à des choses. Je regarde toujours mon être. Et s'il faut, je vais faire de l'écriture automatique ou je vais regarder mes rêves. Je vais essayer toujours d'objectiviser ce qui se passe pour comprendre la vérité. Quel est l'acte juste que je dois poser? Pas l'émotionnel, pas ma peur, par exemple, qui va m'amener.
Moi, souvent, ce que je fais, c'est... mettons que je suis dans une n'importe quelle situation et je me pose toujours la question, pourquoi je pense à ça? Pourquoi je réagis comme ça? C'est sûr que je ne le fais pas systématiquement. Là, je ne suis pas sur le coin de la rue, je dis pourquoi je traverse à gauche, ça averte, là, je sais qu'il y a des lois. Mais je veux dire... Est-ce que je réagis parce que c'est une pensée ou c'est une réflexion que je me fais en fonction d'un certain formatage de mon cerveau, d'un certain formatage de ma pensée, ou c'est quelque chose qui est relié directement à mon être? Et à ce moment-là, pour faire cette réflexion-là, il faut que tu saches ce que tu es comme personne. Comme être. Donc, cette réflexion-là est essentielle. Est essentiel pour pouvoir toujours être centré sur toi-même et même faire des erreurs, parce que ça va te permettre de faire des erreurs. Et tes erreurs, si tu es conscient que ces erreurs-là ont été faites parce que tu as été influencé pour telle ou telle situation, tu vas pouvoir la reconnaître. Pas dans le sens où tu vas vouloir la corriger, parce que cette erreur-là, tu l'as vécu, tu as à apprendre de cette erreur-là. Mais sauf que, sachant que cette erreur-là a été montée par ton build-up psychique, mais ton psychique, tu pourras l'adapter à ton être pour en faire en sorte d'être toujours centré et toujours avoir le clair voir, le clair entendre. Comme tu disais tantôt, être juste dans ta réflexion, être juste dans ton mouvement.
Et c'est pas vraiment évident dans une société où la majorité des gens n'ont pas de jugement. Tu dois beau avoir, toi, du jugement, mais tu vas te faire foncer dedans par un paquet d'autres zombies. Moi, j'aime beaucoup les films de zombies ces temps-ci. Et je fais des rêves, beaucoup de rêves de zombies.
Ah, t'as pas besoin de regarder des films, tu vas juste dans la rue.
Oui. Quand je vois ces gens passer avec tous ces gens avec leur téléphone intelligent qui marchent en le regardant, pour moi, c'est des zombies. Ben oui. T'es comme, regarde donc où tu marches. Mais si on s'arrête pas, comment on peut... On peut vraiment voir clair.
On ne peut pas.
Quelqu'un qui bouge tout le temps, vous connaissez certainement tous des gens qui sont des grands voyageurs. Moi, je n'ai aucun respect pour tous ces gens qui voyagent et voyagent et voyagent parce que souvent, c'est des gens qui fuient.
C'est ça, c'est une fuite.
Ils arrivent quelque part, ça va bien. Là, tout d'un coup, les vrais problèmes reviennent au galop. Puis là, ils repartent. Mais ils n'ont jamais rien réglé.
Non, ils n'ont pas compris, effectivement. De toute façon, le plus beau des voyages, c'est le voyage intérieur. Et c'est là qu'ils vont vraiment trouver la sérénité et la paix. C'est pas en fuyant et en voyageant partout dans le monde.
Puis c'est qu'est-ce qui est bizarre aussi. La plupart des gens, beaucoup de gens vont prendre des voyages l'été. Ils s'en vont dans le sud. Quand ici, il fait 30, 25, 30. Mais ils vont aller dans le sud pour se dépayser. Mais dépayser de quoi? De la réalité qu'ils sont en train de vivre. La réalité ne va pas changer. Quand ils vont revenir, la réalité va être toujours là parce que c'est un construit mental. C'est un construit qu'ils ont décidé de vivre à l'intérieur de ce construit-là. Donc, c'est vraiment la position dans laquelle tu te situes. Moi, j'avais une image quand tu allais travailler, puis les gens disaient sur le métropolitain, c'est toujours jamais, c'est jamais pacté, c'est lent, tu perds du temps. Mais moi, j'aime ça, aller travailler, puis prendre un métropolitain. Tu roules à 10-15 km/h, tu ne vas pas vite, pas de trafic, pas de stop, pas d'arrêt, tu es toujours smooth. Pourquoi les gens
à part tout à l'heure, quand tu voulais venir à l'émission, là.
Non, mais pourquoi les gens. Tu sais, la perception que tu as. Ben pour moi, c'est essentiel. Tu vas travailler, tu n'as pas à être stressé dans le trafic. Tu roules à 15 km sur le métropolitain. Tu es en ligne droite, c'est toujours en ligne droite. Puis c'est la même chose quand tu prends le métro.
C'est parce que ton mental t'entraîne, mais je vais être en retard, et puis ça te stresse, et puis c'est une vraie...
Mais là, c'est ça. Donc, pourquoi le stress, l'émotion que tu parlais tantôt, pourquoi tu rentres dans un état de stress et toutes les conséquences que le stress te crée, ben c'est justement, c'est la perception de l'inessentiel. L'inessentiel, c'est tout ce qui te crée ces émotions-là de rapidité, de compétition, d'achievement. Comment tu dis ça? Achievement. D'achievement.
Oui, voilà, c'est ça.
Puis d'arriver à un point, d'arriver à un but, d'obtenir un objectif, d'avoir des résultats
Tout est basé là-dessus.
Donc, quand tu te rends dans ta voiture puis tu conduis comme un fou, c'est pas parce que t'étais stressé, c'est pas le trafic qui stresse, c'est toi qui stresses. Le trafic est inerte.
Tout le temps toi, c'est au niveau mental. Ben, c'est toi,
quand on parle d'intériorité, quand on parle de l'être, c'est ça. Si toi, t'es dans le trafic puis t'es bordé d'inessentiel.
L'acceptation de ce qui est, l'acceptation que t'es dans le trafic, c'est what, là, tu fais quoi? T'as juste à rester assis puis relaxer.
Même si tu cries, tu plays sur de l'action, ça change rien de la réalité.
Ou bien encore mieux, d'amener ton travail à la maison. C'est-à-dire peu à peu, essayer de convaincre ton patron qu'il y a une partie du travail qui peut être fait chez toi grâce à ton ordinateur. Moi, j'ai jamais vécu ce que tu vis, Gilles, parce que j'ai toujours travaillé chez moi. Et quand j'ai commencé à travailler, ben pour moi, c'était clair que je n'allais pas aller dans un bureau. J'aimais être chez moi avec mes chats. Ma compagne est programmeuse, donc elle travaille souvent chez moi aussi avec son ordinateur. Et donc, ça nous donne, par exemple, le temps d'aller faire l'amour. On prend un break, on fait l'amour, on mange ensemble. C'est des choses qui, pour moi, me rendent tellement heureux. T'sais. Puis je vois que tous ces gens qui travaillent dans des bureaux aseptisés, ils sont dévitalisés. Donc, essayez donc de revenir chez vous, t'sais. Si c'est pas possible, ben demander à travailler moins puis trouver d'autres manières de faire de l'argent. Moi, je trouve qu'il y a toujours des moyens, mais il faut être créatif, il faut être imaginatif. Moi, j'ai beaucoup d'imagination, donc toujours, je me fais des listes pour trouver des nouvelles manières de faire de l'argent.
Mais sauf que pour la créativité, justement, il faut s'arrêter de temps en temps pour que là puisse sortir au niveau de la créativité. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de créativité. Ces gens-là, ils sont trop pris.
C'est ça. Ça
mes
fait
meilleures
des
idées
ça,
sont toujours dans les moments où je fais rien.
Bah, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas vraiment y penser puis créer quelque chose pour se sortir de ça. Ils sont trop conditionnés, hein.
Puis moi, je le vois là, pour des gens qui sont proches de moi, qui sont endettés, il y a une peur. Donc, cette peur les empêche d'être créatifs. J'essayais de convaincre mon amie hier qu'elle pourrait très bien commencer à avoir d'autres contrats à côté. Mais tout de suite, elle me dit « Ah, j'ai mes dettes, j'ai ci, j'ai ça. J'ai pas le choix. »
La peur.
Ah, mais tu vois, il n'y a rien à faire. Ouais. Elle a mis un barrage, un mur qui me dit que c'est impossible. Alors que c'est très possible, ces gens-là peuvent faire beaucoup
limite,
d'argent.
Elle se limite elle-même par la
peur. Tu deviens ignorant parce que tu t'occupes juste de l'inessentiel. Mm. Et quand on parle d'imagination, quand on parle de créativité, ça fait rapport à l'intelligence.
À l'être,
et
à
je parle pas juste d'intelligence cognitive, je parle de l'intelligence étrique. Mais...
Bien, chers auditeurs, on vous invite à tout oublier, sauf l'émission, bien sûr, notre émission. Et donc, à revenir la semaine prochaine et la réécoutant en podcast sur notre site internet, propossurlebonheur.com ou en podcast sur Radio H2O. Et puis, on vous dit bonne semaine à tous.
À la semaine prochaine.
À la prochaine.
Et on vous laisse avec la chanson de Robert Charlebois, Entre deux joints.
Apprenne à marcher. Si tu fais comme ton père, tu vas te faire fourrer. Oh, je sais que t'en as suivi, t'en as jusque-là. Mais tu peux changer ça vite, ça presse en maudit. En deux joints, tu pourrais faire quelque chose. En deux joints, tu pourrais crouiller le cul. T'as un gouvernement qui te vole la tour de bras. Donc pas le gouvernement, mais débarrasse-toi ça. Je pourrais pas comme un chien, puis sans toi, pas coupable. Moi, je te dis que t'es capable, ce pays-là t'appartient. En deux joints, juste à tenir debout. Ça sert à rien de broyer, mais faut que t'ailles jusqu'au bout. T'as rien à perdre, vois-tu, parce qu'ici, au Québec, tu commences par un cube et finis par un bec. En deux joints, tu pourrais faire quelque chose. En deux joints, tu pourrais crouiller le cul. T'as pas besoin de crier, t'as juste à tenir debout. Ça sert à rien de broyer, mais faut que t'ailles jusqu'au bout. T'as rien à perdre, vois-tu, parce que chez nous, au Québec, tout commence par un cube et finis par un bec. En deux joints, tu pourrais faire quelque chose.